Santé, santé mentale, bien-être émotionnel et histoires humaines. Les mots comptaient, un podcast où l'on soigne tout simplement ce que l'on tait. Bon matin à vous qui suivez la radio Jenna. Je suis Délivrance T. C'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Les mots comptaient. Le podcast où nous parlons de ces choses douloureuses, petites ou grandes, qu'on a l'habitude de passer sous silence. Aujourd'hui, je vous propose une discussion autour d'un sujet que vous connaissez peut-être ou pas. Il s'agit du sujet de l'infobésité. Comme le mot le suggère, l'infobésité renvoie à l'information, mais aussi à l'excès, au trop-plein, comme si on s'en gavait. Il faut dire que nous sommes continuellement exposés à des flux d'informations, réseaux sociaux, emails, notifications, médias, IA. Ça n'arrête pas. Donc aujourd'hui, notre invité du jour nous fera découvrir ce qu'est l'infobésité, ses causes, ses conséquences sur la santé en général, et il nous donnera quelques conseils éclairés pour tirer notre épingle du jeu. Alors que vous en ayez déjà entendu parler ou pas, restez avec nous pour la suite, mettez-vous à votre aise alors que nous accueillons notre invité. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît?
Bonjour, moi c'est Henri-Joël Agbou, je suis psychologue du développement et de l'éducation.
Monsieur Henri Joël, heureuse de vous avoir avec moi ce matin. Alors, qu'est-ce que c'est que l'infobésité? Expliquez-nous simplement ce qu'on doit comprendre quand on entend ce mot.
D'accord. L'infobésité, c'est une surcharge informationnelle. Et cette surcharge-là, notre capacité cognitive ou bien notre capacité mentale n'arrive pas à gérer cela. Donc, disons que c'est, en résumé, c'est ce que nous pouvons dire au niveau de l'infobésité.
Donc, en parlant d'infobésité, nous parlons bien de surcharge d'information.
Oui, surcharge d'information.
D'accord. Donc, on est d'accord qu'il faut bien être informé. Ouais. Du coup, finalement, quelle est la différence entre le fait d'être informé, d'être bien informé et d'être surinformé?
D'accord. Au niveau de être informé, c'est avoir accès aux données ou bien à l'information. Oui. Nous avons besoin de quelque chose, par exemple, nous allons à la recherche de cette information. Donc, être bien informé, il y a aujourd'hui la disponibilité de plusieurs types d'informations sur un même sujet. Oui. Maintenant, être bien informé, c'est avoir cette capacité-là de pouvoir disposer, hiérarchiser, essayer de classer ces informations-là pour tirer le meilleur de cela. Oui. Maintenant, être surinformé, c'est-à-dire sur un même sujet, nous avons une disponibilité d'informations. La personne a peut-être déjà l'information essentielle, mais elle cherche que, elle se dit qu'il y a quelque chose qui manque encore à cette information essentielle, et là, elle part à la recherche d'autres informations, même qui ne concernent pas le sujet, pour rajouter, pour dire qu'elle a encore plus d'informations que la normale.
D'accord. Donc, en fait, elle a déjà le nœud, ce qu'il y a de plus vital dans l'information, mais elle ajoute encore plus,
elle ajoute encore plus,
Je me demande pourquoi on fait ça, sérieusement. Est-ce que l'infobésité, c'est une notion scientifique, c'est psychologique ou c'est plutôt médiatique?
C'est, disons que c'est... un mot utilisé par les médias.
Les médias,
oui, d'accord. Mais qui a une source psychologique. Parce qu'on parle de surcharge mentale, surcharge cognitive. Tout ça, là, c'est d'origine psychologique. Donc, chez nous, on dit plutôt la personne souffre de l'addiction aux informations, soit est addictif aux outils informatiques.
L'addiction. D'accord. Donc, c'est un mélange psychologie, média, quelque chose comme ça. Ouais. Ok. Dites-nous, quelles sont les sources principales de cette surcharge d'informations? Nous avons la technologie, les réseaux sociaux, la culture et d'autres choses encore, certainement.
Ok, d'accord. Ouais. Disons que au départ, c'est l'apparition des bibliothèques qui permettait aux gens de s'informer. Donc là, tu dois quitter la maison, aller chercher tes informations et retourner. Donc, au moins à l'époque, les informations là étaient classées. Et parfois, dans certains livres, on vous dit directement que cette information là n'est pas sûre ou bien la recherche n'a pas été approfondie sur le sujet. Maintenant, aujourd'hui, avec le développement de la technologie, tout le monde a accès à l'information. Les informations qui étaient cachées maintenant sont disponibles.
Oui, en grande quantité.
Et maintenant, les réseaux sociaux, surtout les logiciels où c'est programmé aujourd'hui que quand tu t'intéresses juste à un sujet, par exemple, aujourd'hui, je vais sur YouTube, je regarde Radio Dina. Demain, je me connecte à YouTube, même si je n'ai pas besoin forcément de regarder Radio Dina. Radio Dina vient directement à moi.
Oui, à cause de l'algorithme.
Oui, c'est ça. Donc, c'est la même chose au niveau des autres logiciels ou bien outils de recherche d'informations. Donc, à chaque fois, tu reçois des notifications. Donc, la technologie aujourd'hui même nous pousse à aller vers l'information.
Oui.
Tu ne demandes plus, mais on te propose l'information.
Enfin, on t'impose.
Oui, on t'impose l'information. Donc, c'est un peu ça l'origine au niveau de la technologie. Maintenant, au niveau de la psychologie, c'est le fait de ne pas vouloir manquer les news. Ou soit, aujourd'hui, on utilise un terme plus spécifique que tu es à jour, mais j'oublie. Donc, la personne cherche toujours à avoir l'information en premier.
En fait, c'est aussi un peu le fameux FOMO.
Oui, c'est ça.
Now, la peur de passer à côté de quelque chose.
Donc, tout le temps, la personne est sur son téléphone pour voir, surtout avec TikTok, pour voir quelles sont les nouveautés, les nouvelles et tout par rapport à un sujet. Il y a aussi le besoin aussi de rester en relation avec nos connaissances, nos amis et tout. L'infobésité, ce n'est pas seulement dans le cadre de l'utilisation de nos téléphones, mais ça peut être quelque chose lié à notre service, notre boulot. Tu rentres à la maison, mais tu te dis que peut-être il y aura une demande. Donc, tu restes connecté pour avoir les messages, les notifications et tout. À chaque 15 minutes, tu essaies de voir est-ce qu'il y a un mail et tout. Il y a ça de ce côté-là. Et aussi maintenant, l'éducation, bien les études qui nous poussent aussi à aller à la recherche de l'information. Par exemple, vous avez parlé d'un sujet que tu n'as pas bien compris. Maintenant, tu es à la quête de la vérité. Donc, arrivé à la maison, tu commences par chercher. Et maintenant, il y a beaucoup d'informations et parfois, on n'arrive pas à faire le tri parmi ces informations-là.
Donc, on va d'un sujet à un autre. On navigue dans... on commence par... un sujet, on en arrive à un autre et ça ne s'arrête pas. Et pour le domaine professionnel, il y a le fait qu'on reçoit aussi beaucoup d'emails professionnels. On est dans un domaine en particulier. Surtout quand on est abonné aux newsletters et tout, ça arrive. Et tout ça, ça provoque l'infobésité. D'accord. J'imagine que tout ce dont nous parlons là a des conséquences. Quelqu'un me disait l'autre jour, il m'arrive souvent d'ouvrir mon téléphone pour chercher une info précise et 10 minutes plus tard, je suis en train de lire un article sur un sujet complètement différent. Ou pire encore, je suis en train de suivre une vidéo. J'ai l'impression que mon téléphone m'avale et ça fait baisser ma productivité, ça me stresse. Donc, Monsieur Henri Jorouel, je pense que nous sommes nombreux à expérimenter ça. Pour vous, quels sont les impacts de l'infobésité sur la santé mentale et émotionnelle?
D'accord. L'exemple que vous venez de donner, ça rentre dans les conséquences, disons, psychologiques et sociales. Parce que la personne, peut-être, a déjà un programme précis. Juste chercher quelque chose, 2 minutes maintenant, elle perd 10 minutes, 15 minutes.
Ça passe très vite.
Et finalement, elle sera en retard sur son travail ou bien en retard par rapport à son programme. Donc, déjà, et si tu es en retard par rapport à ton travail, c'est qu'il y aura des conséquences au niveau du boulot aussi. Ça agit sur toi. Maintenant, pour dire, l'infobésité agit sur la personne dans plusieurs dimensions ou bien domaines. Par exemple, sur le plan physique. Arrivé à la maison, on dit que je vais me reposer un peu, me détendre. Donc, on prend notre appareil, on va sur TikTok, Facebook pour lire les articles. Et après lecture, on se rend compte qu'on a passé peut-être 2 heures, 3 heures.
Facile.
Et là, on se sent fatigué. Donc, ça veut dire que nous n'aurons pas un sommeil plutôt de qualité. Et nous aurons mal aux yeux. Et nous allons développer des pathologies liées à notre physique par rapport à cela.
Là, nous sommes dans les conséquences physiques.
Physiques. Maintenant, au niveau des conséquences psychologiques, il y a la qualité du sommeil qui revient encore pour nous dire que quoi, quand il n'a pas une bonne qualité de sommeil, la personne a des difficultés à s'en sortir dans sa journée. La personne commence par oublier vite. La personne a du mal à retenir les informations qui sont, comment dire, précieuses pour son travail ou bien ses activités. La personne manque de faire de façon efficace son travail.
Ça impacte la mémoire, la productivité.
Oui. Maintenant, au niveau de la dimension sociale, la personne a du mal à avoir des relations de qualité. On est dans le superficiel. Je vais montrer à l'autre que moi aussi je connais, je suis au courant. Donc, on commence par dire des choses qui ne sont pas forcément vraies.
Oui, on n'a pas vérifié l'info, mais
Oui. Et à un moment donné, la personne dit, ah, je perds mon temps à discuter avec cette personne parce que toutes les informations que la personne partage avec moi n'est pas vraiment de qualité. Et toujours au niveau social, les élèves sont en difficulté en classe parce que ils passent des heures sur un projet et arrivé au cours, l'enseignant dit que hors sujet. Ou soit les informations ne sont pas vérifiées. Donc, ça va agir sur leur performance scolaire et tout. Donc, ils vont commencer par développer encore des pathologies psychologiques comme la honte. C'est-à-dire, c'est toi qui es venu proposer des trucs en classe qui ne sont pas vrais. Les gens vont commencer par se moquer d'eux qui rentrent.
Oui, mais en fin de compte, dans ce cas spécifique, s'ils produisent un travail dont les infos ne sont pas vérifiées, ça veut dire que quelque part, ils n'ont pas poussé leur travail loin.
Oui, c'est le fait de pousser maintenant qui nous envoie encore au niveau de l'infobésité.
Mais pour le travail, les élèves, ils sont obligés.
Oui, ils sont obligés. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, nous évoluons, il y a le développement technologique, mais l'accompagnement qu'il faut mettre sur ce développement-là pour aider ces jeunes-là, cet accompagnement-là n'est plus. Et les enseignants les enseignants ne s'efforcent pas pour montrer aux enfants que l'outil est déjà là. C'est comme ça, il faut d'utiliser l'outil. Et quelles sont les conditions dans lesquelles tu dois utiliser ces outils, les informations que tu as entrées dans ces outils-là pour pouvoir avoir l'information. Si nous prenons l'exemple du Google, quand vous rentrez dans Google, vous tapez n'importe quelle information, il y aura toujours une réponse.
Oui.
Ouais. Maintenant, pour aider les étudiants, Google a créé encore une partie concrète, c'est-à-dire qui regroupe les articles scientifiques et tout pour les étudiants. Maintenant, un étudiant qui n'est pas au courant que cette partie-là existe, il ira juste copier des articles qui ne sont même pas scientifiques pour son devoir.
Oui.
Je ne sais pas si tu connais. Mais les enseignants disaient en classe ou bien en groupe que non, allez sur Google tel, vous verrez des articles pour votre devoir, ça serait plus simple pour ces étudiants.
Du coup, moi, j'ai envie de dire, est-ce que les enseignants eux-mêmes, ils sont au courant?
C'est ça aussi le problème.
Ah, oui.
Parce que ça a été vite à notre niveau. Par exemple, en Occident, c'était progressif. Il y a l'apparition des téléphones, après des logiciels et tout. Nous, le téléphone et les logiciels sont arrivés en même temps. Et maintenant, les adultes, déjà, si tu es dans les trentaines, quarantaines avant l'arrivée, tu commences par douter de toi-même de l'utilisation du téléphone parce que quand un enfant prend, il sait là où il faut aller pour avoir telle chose et telle chose. Mais toi, l'adulte, tu es juste...
On tâtonne.
Ouais.
Ça nous vieillit, cette histoire de réseaux sociaux.
Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, un jeune peut produire une vidéo de qualité sans utiliser un logiciel de performant. Mais un adulte, même faire une vidéo, tu sens en même temps que la personne ne maîtrise pas. Même après des années de formation dans ce domaine. Mais
c'est compliqué de s'adapter.
Oui, c'est compliqué de s'adapter.
Et toutes ces choses, finalement, vont contribuer à la surcharge d'informations.
Oui.
On veut essayer de faire mieux et tout. Et on est dans un cercle vicieux.
Oui, c'est ça.
Qu'en est-il des conséquences sur le plan émotionnel? Vous savez, comme l'anxiété, le stress et tout ça.
Ok. C'est aussi l'un des domaines. Au niveau de l'anxiété, ça peut être aussi l'origine de la quête de l'information. Et ça peut être aussi la conséquence. Je vais être comme les autres, je vais être aussi au courant des événements et tout. Ça peut t'amener à vouloir avoir plus d'informations. Et maintenant, après le lot ou bien le bagage d'informations que tu as, maintenant tu as du mal à gérer. Et ça augmente encore ton anxiété. Et parfois, ça pousse même certains à aller vers la dépression. Prenons l'exemple de Facebook à l'époque. Au début, c'était juste un outil de communication entre les étudiants. Après, ça a évolué. Il y a tellement d'informations, de dérives sur Facebook aujourd'hui que si quelqu'un qui n'a pas un quotient émotionnel élevé, la personne à chaque... Même si c'est 30 minutes, la personne passe sur Facebook, la personne va commencer par déprimer.
Oui, ça c'est vrai.
Ouais.
C'est totalement vrai. Parfois, on voit des informations ou bien on voit des amis qui ont fait peut-être quelque chose. Et là, il y a ce petit démon vert sur votre épaule qui vous dit, bah écoute, toi tu n'as pas fait ci, tel et tel, et c'est vite fait.
Et on commence par se sous-estimer.
Voilà.
Alors que peut-être l'ami là, les difficultés qu'il est en train de rencontrer sur sa voie, il ne dit pas ça sur Facebook.
Oui.
Aujourd'hui, c'est la même chose avec LinkedIn. Tu regardes la page professionnelle des autres et tu te remets en question. Les gens ont fait tant. Oh, chez moi, je n'ai qu'un seul diplôme, je n'ai qu'un seul certificat et tout. Et tu commences à aller encore vers d'autres, à la recherche de d'autres informations, à la recherche des certificats et des choses que tu n'auras même plus pas besoin dans la vie.
Et on compile ces choses, c'est dans le paraître en fait.
Oui.
Finalement, pour être bien vu aux yeux des autres. Oui. Et finalement, pour LinkedIn, ce que ça va provoquer par exemple, c'est que certaines personnes vont avoir, bon, je vais dire entre guillemets, honte de parler de leur parcours professionnel parce qu'ils estiment que ce n'est pas assez étoffé. Waouh. Et c'est le stress.
Le stress qui revient.
Oui.
Le stress avant de faire comme les autres. Et maintenant, les conséquences, c'est le stress après qui dit que tu n'as pas bien fait et il manque quelque chose. Il faut encore te donner et tout. Et à un moment donné, il y a l'épuisement. Ce que les anglophones appellent le burn-out qui peut rejaillir sur la personne. On pense aujourd'hui que c'est seulement dans le milieu professionnel, mais c'est archi fou. Même les élèves souffrent du burn-out à un moment donné de leur parcours éducatif.
En fait, cette histoire de réseau, c'est terrible parce que par rapport au stress, avant même de, par exemple, je donne l'exemple de TikTok. Avant même d'aller sur TikTok, vous êtes déjà stressé à l'idée de ce que vous pourriez voir qui pourrait vous impacter négativement. Déjà, le problème est déjà là. Maintenant, vous prenez votre téléphone, vous voyez ces informations et le stress ne fait que grandir. On doit laisser nos téléphones.
Non, ce n'est pas le fait de laisser le téléphone qui va nous aider, mais c'est plutôt c'est de se connaître, de savoir ses limites, ses forces, ses faiblesses. Quand tu te connais toi-même, même si tu apprends que le menuisier du quartier est nommé, a eu un prix Nobel parce que il a travaillé, alors que tu sais que le travail que tu fournis peut-être dans le social, dans d'autres domaines, est plus élevé que le travail que le menuisier a fait.
On est tranquille.
On est tranquille.
On va revenir sur les pistes dans une minute.
Ouais.
J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez qu'avec tout ça, l'infobésité mène à une forme de paralysie émotionnelle? Vous savez, quand on a trop d'infos, ça tue l'info. Comme par exemple, quand on doit acheter un nouvel ordinateur et qu'on a 50 modèles différents à comparer, lire 20 tests, au final, on est presque plus perdu qu'au départ, avant de prendre la décision.
D'accord.
Donc, la paralysie décisionnelle?
Oui. La paralysie décisionnelle vient très souvent lorsque la personne n'arrive pas à hiérarchiser vraiment l'information. Par exemple, si en allant acheter votre ordinateur, vous avez dit que j'ai besoin d'un ordinateur performant, qui a telle capacité et tout. Quand vous arrivez, vous dites seulement à la personne que c'est ce que je veux. Et la personne vous dit quel est votre budget. Vous proposez le budget et la personne dit que voici trois et choisissez entre les trois. Mais quand vous allez et vous êtes là seulement et vous dites que je veux un ordinateur, le commercial va commencer par faire quoi? Par vous proposer peut-être les meilleurs, les plus performants, même si vous n'avez pas
le budget.
Le budget. Mais il fait son travail.
Mais finalement, avant même d'aller voir, d'aller en boutique pour acheter, on va sur Internet pour voir les modèles.
Oui, c'est... C'est pour cela que je dis qu'il faut faire un travail en amont. Mm-hmm. Tu mets l'objectif pour lequel tu vas sur l'internet pour chercher. Mm-hmm. Et l'objectif, c'est d'avoir un ordinateur. Donc, quel type d'ordinateur tu veux? Et là, tu dis que tu veux juste comparer trois marques, peut-être HP et Dell et tout ça là. Et tu vois les conséquences de ces ordinateurs là. Et tu verras qu'il y aura l'un qui sera plus performant que l'autre. Oui. Et là, tu dis que ok, c'est ça que je veux. Mais quand tu n'es pas préparé, tu auras des difficultés là.
On fonce juste dans le tas. Il faut faire, comme vous avez dit, un travail en amont.
Oui.
D'accord. Bon, maintenant on sait ce qu'est l'infobésité, cause, conséquence. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître concrètement qu'on est en situation d'infobésité?
D'accord. Par exemple, si nous prenons le cas de nos personnes âgées ou bien les adultes, après avoir passé un temps sur TikTok, la personne commence par avoir des remords.
Des remords.
Oui, il commence par dire que « Oh, pourquoi j'ai passé tout mon temps ?» Mais après, le lendemain,
Il recommence.
Et ça devient un cercle vicieux tout le temps. Donc, déjà, quand tu sais que tu passes du temps sur Internet et tu as des difficultés à te retrouver après, c'est que tu es dans l'infobésité. Et tu n'es pas allé pour un objectif précis, mais juste parce que tu voulais juste regarder quelque chose.
Voilà,
et au final, tu te retrouves dans beaucoup de choses. Donc, c'est disons que c'est l'un des facteurs qui peut nous alerter. Maintenant, l'autre aussi, c'est le temps qu'on passe sur Internet. Par exemple, tu te dis que j'ai 5 minutes à perdre, donc je vais aller sur Internet. Et après, tu vois que tu as passé une heure de temps. Donc, ça veut dire que déjà, tu dois commencer par savoir qu'il y a l'infobésité qui est là dans le coin. Il y a aussi la manière dont nous consultons nos téléphones. Vous allez voir certaines personnes qui sont en famille, au bureau et tout. Chaque 5 minutes, elles essayent de consulter leur téléphone. Chaque 5 minutes, donc, c'est aussi un signe de l'info.
On n'arrive pas à se détacher du téléphone.
Tu vas voir quelqu'un oublie son téléphone à la maison, arrivé au boulot. Tout le monde est devenu son ennemi.
Oui, c'est la maladie directe.
Oui.
On commence à faire la fièvre.
Oui.
Oui.
Parce que c'est devenu, disons, une partie de nous.
Oui.
Partie de nous. Et quand on ne sait pas contrôler cette partie-là, on a des difficultés à s'en sortir.
C'est une dépendance.
Oui.
En fait, on va dire une dépendance. C'est comme quand on se dit, je regarde encore une vidéo et après j'arrête.
Ouais.
Et finalement, on se retrouve à dormir à 2h du matin.
Ouais.
Là, il faut se douter que rien de bon
parfois,
ne va
parfois, on
ne
dort même pas. Parfois, on se retrouve à 5h du matin et on dit, oh, il est 5h.
D'accord. Eh bien, maintenant, nous allons parler stratégie et solution parce qu'il faut s'en sortir.
D'accord.
Quelle stratégie psychologique est-ce que nous pouvons mettre en place pour gérer cette surcharge d'informations? Peut-être la pleine conscience, je ne sais pas, la hiérarchisation, des connexions, peu importe, donnez-nous des stratégies psychologiques déjà.
D'accord. Il y a plusieurs types de stratégies. Il y a l'ignorance volontaire ou bien l'ignorance critique. Tu arrives sur Internet, tu vois l'information, mais tu dis que moi, je n'ai pas besoin de cette information. On ignore volontairement l'information.
Okay.
On met ça de ce côté. Il y a aussi l'hiérarchisation de l'information. Donc, quand tu vas ou bien tu es sur Internet, tu dis que moi, ce sont les trucs qui sont importants pour moi. Vous allez voir que quand vous prenez le TikTok de votre ami, peut-être c'est les chaussures, les habits seulement que la personne voit. Mais chez vous aussi, on verra qu'il y a d'autres informations qui arrivent très vite. Peut-être ça serait vous, les voitures, les motos et tout. Donc, ça dépend du goût de chacun. Donc, quand tu es spécifique sur un sujet donné, ça te permet aussi de limiter. Parce qu'à un moment donné, tu regardes les chaussures pendant une heure de temps. Tu seras fatigué. Même tu ne vas pas aller à une heure de temps, tu vas dire que TikTok, là, ça fatigue et tu déposes.
Moi, je connais des gens qui peuvent regarder des chaussures pendant 2 heures de temps.
Donc, ça veut dire qu'il y a un autre problème aussi de l'autre côté.
Oui.
Là, on parle de des cas normaux. Oui. Donc, c'est un peu ça. Il y a également la déconnexion volontaire. C'est-à-dire, dans la journée, tu prends une heure de temps, tu dis que, je vais laisser mon portable, je vais lire un peu, ou bien écrire, ou soit réfléchir sur un sujet donné et tu restes posé. Et tu verras que ça fait du bien. Mm-hmm. Ça fait du bien de laisser un peu son téléphone. Mm-hmm. Et à un moment donné, tu vas commencer même par te détacher du téléphone et les gens vont t'écrire. Peut-être tu vas répondre 2 jours, 3 jours après. On dira que tu fais la dépression, mais plutôt tu es en train de te retrouver.
Oui.
Tu es en train de te retrouver.
Se ressentir
oui,
sur soi-même.
Oui, c'est ça.
Donc on se déconnecte.
Oui.
Enfin, pas complètement.
Oui,
mais
pas
on
complètement.
Se déconnecte.
Mais pendant quelques.
Voilà. Ouais. On hiérarchise l'information.
Oui.
Et aussi, vous avez parlé de quelque chose
de comment dire l'ignorance critique ou bien l'ignorance volontaire.
Voilà, donc on n'est pas obligé de tout prendre.
De tout prendre.
D'accord. Maintenant, donnez-nous des bonnes habitudes concrètes
ouais.
pour gérer les notifications, les emails. On est dans le professionnel, on est quand même obligé de consulter ses mails, organiser les sources d'information, limiter le temps d'écran concrètement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu?
Les bonnes pratiques, tout d'abord, il faut désactiver plutôt les notifications qui ne sont pas essentielles. Mm-hmm. Par exemple, tu t'inscris sur peut-être une page web. Mm-hmm. Là, on te dit qu'ils vont t'envoyer des mails tout le temps. Mm-hmm. Et là, à un moment donné, tu te retrouves avec beaucoup d'emails mm-hmm. et tu n'arrives pas à lire même. Mm-hmm. Donc, il faut désactiver ces notifications-là. Également aussi, on peut classer notre utilisation de, ou bien, oui c'est ça, les prix par priorité, ce qui est utile, fiable, avant les autres. Là, quand tu es sur ce qui est utile et fiable, tu verras que comme c'est organisé, un moment donné, quand tu finis, tu dis que okay, après, tu aussi, j'aurai le temps de regarder les vidéos ou bien aller vers d'autres informations. Et après tout là, ça peut se retrouver dans le lendemain. Mais finalement, quand tu reprends le même processus utile, fiable, tu verras que tu n'auras plus le temps de se disperser.
Oui.
Donc, il y a ça aussi. Et il y a aussi le fait de créer des plages horaires sans écran, ce que je viens de dire. Oui. Dans la journée, tu peux définir les heures où tu utilises Internet pour faire communiquer avec les autres et tout, pour ne pas être surchargé par les messages et aussi par d'autres notifications qui peuvent te déranger.
Qui tombent en rafale.
Ouais. Donc, c'est. Et un dernier aussi. Utiliser les outils de curation, les outils qui nous permettent de filtrer les emails importants, les logiciels que nous pouvons télécharger sur Google qui nous permettent de filtrer. Tu dis que ça, tu n'en as pas besoin, ça, tu n'as pas besoin. Donc, quand le mail arrive, l'outil capte le mail et met ça dans spam et...
Oui.
On laisse tomber.
D'accord. Donc, vous n'êtes pas submergé par des mails qui, en fin de compte, n'ont pas grande importance.
Oui, même des messages qui n'ont pas d'importance.
Et ce que vous dites là, par rapport aux personnes qui sont, comment dire, des addicts des réseaux sociaux.
Oui.
Et quand vous leur dites, fixez des plages horaires, vous ne devez pas dépasser ce temps. Est-ce que dans la faisabilité, oui.
Le problème, c'est que quand une personne souffre d'addiction, on ne peut pas donner ces genres de conseils. Je parle de des personnes qui sont normales.
Oui, qui ne sont pas allés trop loin encore.
Quand la personne souffre d'addiction, mm-hmm. il y a aussi un processus d'accompagnement mm-hmm. spécifique à cette personne-là.
D'accord.
On dirait un traitement pour cette personne-là,
okay.
pour l'aider. Parfois, comme on voit très souvent certaines personnes avec leur téléphone, on dit que la personne a sûrement qu'elle souffre d'addiction mm-hmm. liée à son téléphone, mais ce n'est pas tout le monde qui souffre d'addiction, mm-hmm. mais plutôt des personnes qui... cette peur-là de manquer l'information.
Oui.
Eh oui. Donc, c'est aussi le fait de travailler. Quand c'est spécifique comme cela, on travaille sur cette peur-là et la personne se débarrasse de cette peur. Et vous allez voir que le téléphone est là, elle est là, mais elle n'a pas de difficulté. Oui. Mais la personne qui souffre d'addiction, il faudrait connaître quelle est l'origine de son addiction, oui. travailler sur l'origine oui. et au fur et à mesure, ça peut passer.
Ouais, peut-être qu'on en parlera, ce
ouais.
sera intéressant.
Ouais.
Et donc, pour tenir toutes ces habitudes, il nous faut beaucoup de volonté.
Oui, beaucoup de volonté.
Si on ne veut pas, ce n'est même pas la
chez
peine
nous,
de...
Mais chez nous, le premier pas, c'est de vouloir aussi avancer. Quand tu veux guérir, donc tu dois avoir cette volonté-là oui. d'avancer. Sans ça, tu ne pourras pas avancer.
Aller de l'avant. Ouais. Comment on fait pour développer une bonne hygiène mentale numérique? Par exemple, ouais. quand physiquement, on se dit, je vais prendre ma douche deux fois par jour, ouais. et puis j'ai telle routine et tout. Et ouais. du côté mental, comment on fait pour un peu laver tout ça?
Ok. Je pense qu'on a abordé un point crucial, c'est de pouvoir aussi planifier l'utilisation de, des réseaux sociaux. Oui. C'est ça l'essentiel, parce qu'aujourd'hui, même la communication en général passe par les réseaux sociaux. Oui. Donc, c'est important de planifier. Quand vous avez des personnes importantes à appeler dans la journée, vous dites que okay, je vais le faire la matinée et puis la soirée. Quand vous savez que c'est important aussi les réseaux sociaux, vous allez voir que même les techniciens aujourd'hui disent que ça fonctionne de telle heure à telle heure. Quand tu publies ton information, les gens sont plus aptes à lire ça. Oui. Donc, ça veut dire que quoi? Nous aussi, nous devons avoir une plage horaire pour pouvoir aller sur Internet. Oui. Et ça nous permet aussi d'être organisés, de ne pas déborder dans le temps et de rester focus sur ce que nous voulons.
Oui. On fait le vide dans notre tête, on compartimente.
Oui.
À tel moment, je suis en pause, à tel moment, je fais très ceci. Bien. Bon, peut-être 30 minutes pour Facebook, 30 minutes pour TikTok. Mais à tel moment de la journée, je peux consulter mes mails dans le professionnel et comme ça, on a une bonne hygiène mentale.
Mais de façon générale, les utilisateurs des réseaux sociaux, vous allez voir que nous consommons plus un réseau plus que l'autre.
Oui, ça c'est vrai.
Et parfois même, dans une semaine, on peut rester sur un même réseau en oubliant, sauf nous sommes chargés de communication.
Oui.
Mais en général, nous consommons un réseau plus que les autres.
Oui, on a une prédilection pour un réseau
plutôt
qu'un autre. D'accord, on va essayer d'avoir la volonté de faire tout ça, sinon on peut juste mettre nos écrans à la poubelle. Donc on filtre les informations, on se fixe des limites, des plages horaires, on n'est pas obligé d'être tout le temps partout, de vouloir tout savoir, et ça devrait aller. Voici un chiffre totalement dingue sur le monde des réseaux qui pourrait vraiment nous faire envisager l'option poubelle. Selon une étude réalisée par Thunderbit, 4 millions de vidéos sont postées chaque jour sur TikTok, soit environ 270 nouveaux TikTok chaque seconde. Le temps d'un tic sur l'horloge, avant même qu'on aille sur le tac, 270 vidéos, et je ne sais pas si nous réalisons en fait. Et là, nous parlons juste de TikTok. C'est une vraie folie. Et finalement, le cerveau de l'humain n'a pas évolué aussi vite que la technologie. On en est toujours au basique, la survie et tout. Et nous balançons à notre cerveau l'équivalent peut-être de 1000 bibliothèques tout le temps. Et le cerveau, il sature, n'est-ce pas?
La chance que nous avons, c'est que on n'a pas présentement les capacités de voir toutes ces vidéos-là. C'est la seule chance que nous avons.
Dans la faisabilité.
Maintenant, de l'autre côté, c'est que c'est ça qui nous fait perdre plus de temps, plus d'énergie, et aussi nous amène à être dispersés de façon superficielle. Vous allez voir que vous aurez tendance à vouloir tout voir, tout connaître en même temps. Et là, vous pouvez passer même une journée, vous ne pouvez même pas rattraper les vidéos de une heure postées sur TikTok.
On est tout le temps, on veut pas être la personne qui n'a pas la référence dans une pièce par rapport à une blague qui a circulé la veille sur les réseaux. On veut savoir, nous aussi on veut savoir.
Oui, mais si vous connaissez, c'est l'une des choses que j'avais dit aussi, si vous connaissez vos forces, vos faiblesses, les attentes que vous avez vis-à-vis de vous-même, vous n'aurez pas ces difficultés-là. Ah, c'est quelle blague, la personne dit, ah, c'est ce qui s'est passé. Et ça passe. Mais on n'a pas besoin de tout savoir, de tout dire, et aussi d'être à la une comme tout le monde.
Oui, on est tellement obsédé par cette histoire de je vais être à la page. Décidément. Alors, Monsieur Henri Joël, nous sommes à la fin de ce numéro. Est-ce que vous avez un mot de fin? Si vous ne devez donner qu'un seul conseil pratique à mettre en place dès aujourd'hui, lequel est-ce que ce serait?
C'est de prendre sur soi, même si c'est 30 minutes chaque jour, de faire une pause sans écran. Quand on dit sans écran, le téléphone, l'ordinateur, la télé, tout. On est là, on peut pratiquer la pleine conscience pour faire passer sa journée, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer demain. Vous verrez que avec le temps, ça vous fera du bien. Et vous allez commencer par dire, ah, les téléphones, les écrans étaient en train de me bouffer sans que je ne le sache. Donc, je dirais que c'est mon mot de fin pour cette session.
Oui, et je reviens légèrement sur la pleine conscience.
Oui.
Est-ce que vous pouvez dire un peu en deux mots ce que c'est réellement que la pleine conscience?
La pleine conscience, c'est de se retrouver soi-même, être concentré, fermer les yeux, respirer. Ça se pratique de différentes façons. Donc, ça dépend du praticien qui te montre cela. Par exemple, dans certains livres psychologiques, vous allez voir du 5-5-5 et dans d'autres livres du 6-6 et parfois 7-7-7. Donc, vous respirez, vous inspirez 7 secondes, vous bloquez encore 7 secondes avant de expirer 7 secondes.
D'accord.
Et vous répétez ça le nombre de fois que de secondes vous le faites.
Oui.
Donc, si c'est 5-5-5, ça veut dire qu'après 5 inspiration et expiration, là, vous vous retrouvez.
Mmh.
Et là, vous prenez un bic et vous commencez par revoir, passer l'image de votre journée et vous notez les difficultés racontées, les choses bonnes, les choses que vous avez bien faites et les choses à améliorer pour demain et ce que je peux améliorer dans mes relations, des trucs spécifiques que vous mettez et vous ne devez pas chercher à accomplir tout ça le lendemain, mais juste choisir un point que vous trouvez crucial et vous traversez ça le lendemain et vous vous notez le lendemain en faisant encore la pleine conscience pour voir est-ce que j'ai essayé de m'améliorer.
D'accord, donc il faut se retrouver avec soi-même.
Oui, soi-même.
Ok, donc chers tous, le mot de fin, il faut essayer de prendre déjà dès aujourd'hui 30 minutes seulement dans une journée sans les écrans. Je pense qu'on peut tous le faire avec un peu de volonté. Monsieur Henri, merci pour vos précieux conseils. Nous allons essayer de les mettre en pratique.
D'accord. Merci, Madame Délivrance.
Avec plaisir. Cher ami de Gina, souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout lire, de tout savoir, de tout suivre. Tu peux choisir, tu peux ralentir, tu peux créer un espace mental plus léger, plus calme, plus libre. C'est la fin de ce numéro. Je vous remercie d'avoir été avec nous tout au long. Si cet épisode vous a aidé à réfléchir, partagez-le avec quelqu'un qui, lui aussi, se sent peut-être noyé sous les infos. Maintenant, écoutez ceci. En l'honneur d'Octobre Rose et de la lutte contre le cancer du sein, les mots comptaient voudraient parler d'espoir, de résilience, en accueillant une personne qui a vaincu le cancer du sein ou une personne de son entourage parce que les proches d'une personne en souffrance portent une autre forme de croix. Alors, je vous lance un appel. N'hésitez pas à contacter la radio Jenna sur le plus 228 90 13 89 94 pour vous raconter et pour peut-être aider quelqu'un qui nous écoute. Merci à vous. Je vous le dis encore une fois, la santé n'a pas de prix. Alors pensez à prendre du temps pour vous occuper de vous et uniquement de vous. Prenez soin de votre santé physique, mais aussi votre santé mentale. Retrouvons-nous le premier jeudi du mois prochain à partir de 10h sur la radio Gina pour un autre numéro du podcast Les mots comptaient. Ensemble, soignons ces douleurs qu'on passe sous silence. Chers amis, je suis Délivrance T. Je suis simplement une oreille compatissante et je vous dis un chaleureux à très vite.